Je vais parler d'un sujet relativement classique, mais un peu dans le prolongement de ce dont a parlé Jérôme à propos de l'évolution, etc. D'une doctrine relativement récente qui s'appelle le pastafarisme. Je suis un peu désolé de la relative technicité de cet exposé, mais il s'agira de démontrer que certaines pistes semblent montrer que le pastafarisme n'est pas une religion authentique. Elle a des origines beaucoup plus anciennes en fait et légèrement différentes. Qu'est-ce que c'est que le pastafarisme? Je vais peut-être faire quelques rappels pour les gens qui ne sont pas encore au courant de l'actualité. Donc c'est une religion qui est née en 2005 pour protester contre les idées créationnistes des chrétiens aux États-Unis. Qui croit en une divinité appelée les pastafaristes croient une divinité appelée le monstre de spaghetti volant, dont le nom n'est pas vraiment attesté en français, mais on l'appelle en anglais Spaghetti Deity ou Flying Spaghetti Monster. Le monstre de spaghetti volant a certaines représentations canoniques. Il est représenté généralement comme une pelote de spaghetti avec des boulettes de viande, donc ici par exemple. Dont la volonté s'exécuterait par his noodly appendages, ses appendices nouillesques qu'on peut voir sur cette représentation. Il y a également un petit logo qui symbolise la foi pastafariste. Cette idée qui contrevient qui se contrevient naturellement aux idées de la foi catholique et de la foi chrétienne semble relativement saugrenue. Et je propose donc une hypothèse d'une origine plus ancienne. Les premières preuves sont un syncrétisme relativement frappant avec la religion chrétienne. On a pu voir, par exemple, sur ce tableau, une vraisemblable inspiration de tableau représentant le dieu chrétien, et dans ce logo, une un peu moins vraisemblable inspiration du poisson des chrétiens. Voilà. Et également, le culte des divinités comestibles est un culte relativement ancien et qui a semblé un peu oublié. Dans le christianisme même, nous avons le culte d'une divinité comestible, puisque Jésus lui-même dit prenez et mangez parce que ceci est mon corps, et buvez également ceci puisque c'est mon sang. On a vu tout à l'heure que le logo des pastafaristes ressemblait beaucoup au poisson ichthus chrétien. Et il laisse penser donc que ces deux dessins ont une origine commune. Comment peut-on l'interpréter et qu'est-ce que c'est que cela? Des découvertes récentes montrent des petites inscriptions, des petites tablettes où il y aurait écrit Opsaria, Psari plus tard, dans des tablettes un peu plus tardives, disons du Moyen Âge environ. Les datations ne sont pas très précises et malheureusement, je n'ai pas eu suffisamment de temps pour préparer mon exposé et vous apporter quelques reproductions. On ne sait pas trop ce que signifie cette inscription exactement. On sait ce que signifie le ictus des chrétiens. Il semblerait que ce soit une invocation de la divinité chrétienne. Les hypothèses les plus vraisemblables sont que le Opsaria, que représenté sur ces petites tablettes, serait également une invocation d'un dieu. Alors lequel? Et quel est son lien avec le monstre de spaghetti volant? C'est ce que je vais essayer de présenter quelques hypothèses à ce propos. Voici une première formule proposée. Qui dit, quand les pirates découvrirent un nom qui probablement un nom propre, Sebagoteos, qui faisait des discours et qui était particulièrement puissant, ils l'annoncèrent. Cette formule semble parler d'un certain dieu, Sebagoteos, dont le nom apparaît dans quelques inscriptions et quelques manuscrits. À propos des pirates, que je n'ai pas mentionné encore, la doctrine pastafariste dans sa version actuelle parle des pirates comme comme les véritables fidèles et les véritables adorateurs du dieu spaghetti, et notamment relie le réchauffement climatique à la baisse du nombre de pirates, et donc explique le réchauffement climatique par la colère du dieu spaghetti face à la baisse du nombre de ses véritables adorateurs. Donc on retrouve ici le nom des pirates, qui semble indiquer une parenté avec la doctrine actuelle. Alors voici une autre formule proposée, donc qui a été trouvée dans un autre manuscrit, qui dirait que le Sébagothéos ailé, qui a été découvert, ah non non, qui dit oh, Sébagothéos ailé, qui a été découvert, nous annoncerons tes discours aux historiens. Donc alors qu'est-ce que Opsaria, qui est manifestement un analogue du ictus des chrétiens. Donc ça désigne un petit plat, une préparation culinaire. Et une des hypothèses vraisemblables pour laquelle ce mot a été choisi, c'est qu'il désigne quelque chose qui est destiné à être mangé. Alors que ictus est peut-être moins porté vers la cuisine et vers les choses comestibles. Donc très probablement la divinité adorée par cette religion est mangeable. Donc je rappelle ici les différents éléments de la doctrine pastafariste actuelle qui semblent être reliés à ces découvertes. Donc la conclusion, c'est que nous avons bien une divinité comestible, alors qui est manifestement volante, donc d'après la deuxième interprétation de la formule que nous avons eue, et qui était très ancienne. Donc notre problème maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que c'était que cette divinité. Et donc on va pour cela essayer de mener une analyse philologique du nom du dieu Spaghetti. Donc aujourd'hui, on a deux termes essentiellement qui sont Flying Spaghetti Monster et Spaghetti Deity. Donc le problème, c'est que évidemment, à l'époque où on voudrait reconstruire une proto-religion dont descendrait le pastafarisme, les spaghettis n'existaient pas. On ne peut donc pas imaginer que ces noms fussent anciens, ni même hérités du Moyen Âge. Donc, soit les noms modernes ont été choisis pour leur ridicule. Donc, ça voudrait dire qu'on a priori choisi ces noms pour détourner la religion de son but initial, qui est quand même de former la société, etc. Donc, soit que ce sont des vestiges déformés de noms anciens, ou éventuellement une combinaison de ces deux hypothèses, mais si on supposait simplement la première, on ne pourrait pas dire de choses vraiment intéressantes. Donc on va s'intéresser à ce que pourrait donner la deuxième hypothèse. Donc ces noms du dieu Spaghetti peuvent être constitués donc d'après les formules invocatoires que j'ai indiquées. Donc on a plusieurs hypothèses possibles. Donc soit un certain Pétsépharis, soit un certain Sébagothéos, ou alors Sébagodios dans certains dialectes. Donc on va regarder un petit peu ces différents noms et voir ce qu'ils peuvent bien signifier. Donc Petsepharis, alors c'est composé d'un certain pet qui veut signifie voler, et d'un sepharis qui voudrait dire quelque chose comme oiseau. Donc ce serait le nom d'une divinité qui serait un oiseau volant, donc qui n'a pas l'air de correspondre vraiment à notre description de spaghetti. Donc a priori peut-être quelque chose à écarter, ou peut-être quelque chose de trop imprécis. Donc ce nom était très probablement déformé, donc par exemple par métathèse du sigma et du tau, pour dire pestepharis, et qui aurait pu être mal interprété comme pastafor, par exemple, porteur de pâte, et donc a été compris comme une divinité qui serait munie de pâte. Donc une autre piste d'évolution, donc c'est le tse qui se transformerait plutôt en tse et qui donnerait le nom Pizzepharis, donc qui lui a pu être interprété comme porteur de pizza par contre. Et dans ce cas-là, on aurait une religion qui s'appelle le Pizzapharisme. Alors cette religion existe effectivement, Elle est légèrement moins connue que le pastafarisme qui a connu une médiatisation un peu excessive. Mais si vous cherchez, par exemple, dans des sources bibliographiques très très fiables comme Google, par exemple, vous verrez que de nombreuses personnes croient en un dieu de pizza volante, qui semblerait donc avoir la même origine, mais une évolution plus indépendante. Donc l'autre nom que j'ai proposé, qui est Sbagetheos, qui signifie Dieu est vénéré pour son goût, donc qui fait plus référence à l'aspect comestible du dieu. Donc il y a un aspect important, comme nous l'avons vu, et comme le rappelait le nom Obsarion des petites tablettes. Donc il a pu être confondu avec Spaghetto, suite aux évolutions phonétiques et aux transferts. Donc nous savons que les pirates étaient des équipages formés de gens qui parlaient plusieurs langues différentes, qui ne se comprenaient pas forcément tous tout à fait entre eux, et qui ont pu mal prononcer les noms. Donc qui a pu être transformé en Spaghetto. Alors une dernière hypothèse que je n'ai pas encore évoquée, c'est une origine éthiopienne, puisque par exemple, donc si des historiens, donc par exemple dans l'œuvre d'Astérix, nous rapportent que les pirates avaient parfois dans leurs équipages des Africains. Donc les Africains parlent de Tafari pour celui qui est craint. Donc Petafaris, ce serait celui qui est craint et qui est ailé, et qui serait un nom tout à fait adéquat pour une divinité. Donc aujourd'hui, on a encore des exemples de ce nom dans Rastafari. Donc Rastafari, c'est le chef qui est craint et qui est également le nom d'une divinité puisqu'il est vénéré par la culture Rasta. Donc la conclusion, c'est que le dieu du pastafarisme n'est certainement pas fait de spaghettis, ça nous l'avons déjà vu. Et très probablement, les déformations qui ont été introduites ont pu être légèrement favorisés par des religieux italiens. Nous savons que la région italienne est le théâtre de nombreuses, comment dire, nombreuses organisations religieuses qui essayent de conserver une influence économique sur le monde. Et avoir une divinité faite de spaghettis ou de pizza était un très bon moyen de stimuler l'économie de la région. Alors, cela ne nous informe toujours pas sur la forme du dieu pastafariste, du dieu des pastafaristes dans l'Antiquité. Donc, probablement un animal marin, puisque c'est l'alimentation traditionnelle des marins. Alors, les formes actuelles du dieu pastafariste nous poussent quand même à envisager certains animaux plutôt que d'autres. Donc, peut-être éventuellement le poisson-chat, dont nous avons un petit peu parlé tout à l'heure, mais qui n'a pas tout à fait la forme qu'on recherche, et le calamar et la méduse. Donc la méduse présente le problème d'être légèrement moins comestible que le reste, mais nous savons quand même par les cultures asiatiques que la méduse est comestible. Il n'y a pas de suite. Donc pour conclure, donc le calamar existe encore dans la mythologie, donc par le kraken, qui apparaît dans la mythologie nordique, mais nous savons par des sources parfaitement fiables que le kraken était également une figure de la mythologie grecque, et nous le savons par exemple par une œuvre récente qui s'appelle Le Choc des Titans, donc un film parfaitement recommandable où Jason se bat contre le kraken notamment. Non, c'est pas Jason, c'est peut-être un autre. Donc voilà, donc c'est une piste qui est encore ouverte, les recherches ne sont pas terminées. Donc probablement des recherches bibliographiques plus poussées pourraient permettre de mieux cerner la chose. Donc par exemple en cherchant un ancêtre commun comme entre la pizza et les spaghettis. Donc je laisse le reste à votre sagacité. Et vous souhaite d'excellentes recherches pour trouver la vérité dans le pastafarisme. S'il y a des questions.
Comparer le prix des livres, par exemple, une somme d'intérêt par pupitre pour les réécrire et compléter donc toutes les références avec l'albara par les banques.
Alors, c'est une hypothèse intéressante, effectivement. Je ne l'avais pas considéré, donc merci de me l'avoir, merci de m'avoir posé cette question. Je dirais que c'est une hypothèse probable, mais pas forcément unique. De nombreuses invasions ont eu lieu, des découvertes. Il semblerait aussi que les écrits pastafaristes aient été relativement rares au départ et étaient plutôt des inscriptions qui étaient englouties par les eaux. Notamment suite à la destruction de navires pirates. Et il semblerait probable que plus aucun des anciens écrits ne soit parvenu. Ah, il y a encore une question. Alors, il pourrait s'agir des yeux de méduses, donc qui sont capables, comme chacun sait, de transformer en pierre, donc qui auraient pu être symbolisés par des rochers et qui ont été mal interprétés puisque on met pas de rochers dans les spaghettis. Alors, dans les spaghettis, on met aussi assez rarement des boulettes de viande. Enfin, personnellement, je ne fais pas comme ça, mais c'est peut-être la seule hypothèse raisonnable qui leur soit venue. Alors, le problème du couscous, c'est qu'il n'est pas connexe. Mais il pourrait s'agir d'un unique. Voilà, donc je laisse la parole à Rachel Dace pour la suite des exposés après.